mardi 5 mai. Ici Valérie Leboeuf, voici les nouvelles. Bon après-midi, mesdames, messieurs. D'abord, l'enquête du coroner qui a débuté aujourd'hui à la suite du décès d'un homme tétraplégique pourrait avoir plusieurs répercussions. La mort de Normand Meunier a mis en lumière les défis des personnes paralysées pour obtenir des soins adaptés. Annie Guilmette.
Normand Meunier avait 66 ans. Tétraplégique, il souffrait de nombreuses plaies de lit dues au fait qu'il passait sa vie couché ou dans un fauteuil roulant. Sa situation s'est lourdement aggravée après un passage à l'urgence de l'hôpital de Saint-Jérôme où il n'y avait pas de matelas adapté. Sa conjointe, Sylvie Brosseau.
Il n'y avait plus de fesses. C'était gratté, là, il n'y avait plus rien.
Elle souhaite que l'enquête du coroner Dave Kimpton établisse une méthode de soins unique.
Il va falloir qu'ils travaillent en équipe. C'est un protocole qu'il faut suivre.
Son avocat, Maître Patrick Martin-Ménard, va dans le même sens et souhaite que l'enquête touche ultimement tous les établissements de santé de la province concernant les soins offerts aux gens vivants avec une lésion de la moelle épinière.
Il y a une réflexion à avoir, je pense, sur la façon dont le système de santé descend cette clientèle-là.
Près de 40 témoins seront appelés à la barre d'ici le 6 juin. Annie Guilmette, Cogeco Nouvelles, Montréal.
Le milieu du cinéma se demande comment l'administration Trump mettra en place ses tarifs dans cette industrie. Le président américain Donald Trump a annoncé hier qu'il avait l'intention d'imposer des tarifs de 100% aux films qui ne sont pas entièrement tournés aux États-Unis. Michel Trudel est cofondateur des studios Mills à Montréal. Selon lui, il est impossible pour les Américains de tout produire dans leur pays.
On a bâti des studios, on a fait en sorte qu'il y ait des écoles en cinéma qui puissent entraîner des futurs techniciens et tout. Alors Montréal a tout pour attirer les gens. Et d'ailleurs, je vais à Los Angeles trois fois par année justement pour continuer d'attirer les gens de venir tourner ici. C'est important. Honnêtement, j'ai pas peur. J'ai hâte de voir ce que M. Trump va sortir.
L'industrie du cinéma américain représente des sommes de quelques centaines de millions de dollars avec une douzaine de tournages par année à Montréal. Politique, Éric Duhaime aurait des chances de décrocher la circonscription d'Arthabasca lors d'une élection partielle, mais la lutte s'annonce chaude. C'est ce que pense Philippe Gifournier, fondateur de l'agrégateur de sondage 338 Canada, au lendemain de la confirmation de la candidature du chef conservateur. Selon lui, plusieurs variables sont à considérer. La CAQ est en perte de vitesse et le Parti québécois mettra tous les efforts pour s'emparer de cette circonscription.
Pour la CAQ, dans le Québec francophone rural, ça va être extrêmement difficile aux prochaines élections et d'ici les prochaines élections. Alors, vous me demandez c'est quoi les chances de M. Duhaime de l'emporter? Je ne sais pas, moi, peut-être 40 ou 50 les chances sont là, mais j'ai hâte de voir qui aurait la machine de terrain la plus efficace parce que le Parti québécois met beaucoup de ressources présentement dans la circonscription.
Sur la scène internationale, Israël laisse ouverte jusqu'à la mi-mai une fenêtre de négociation sur les otages avant d'aller de l'avant avec une extension de ses opérations militaires dans la bande de Gaza. L'offensive approuvée par le cabinet israélien attendra après une visite du président américain Donald Trump dans la région la semaine prochaine. Des dizaines de milliers de réservistes ont été mobilisés en vue de conquérir la bande de Gaza. Le premier ministre Benjamin Netanyahou évoque une opération musclée et indique que la population sera déplacée pour sa protection. Et la direction du Canadien de Montréal a dressé un bilan de fin de saison optimiste pour l'avenir ce matin au Centre Bell. Le vice-président exécutif aux opérations, Jeff Gorton, et le directeur général, Kent Hughes, ont eu de bons mots pour les jeunes joueurs de l'équipe qui ont poursuivi leur progression. Hughes a aussi salué le travail de l'entraîneur-chef Martin Saint-Louis, qui est en nomination pour le titre d'entraîneur-chef de l'année dans la LNH.
Qu'est-ce qu'on a vu de Martin au mois de novembre, puis sa capacité de rebondir l'équipe? Ça ne devrait pas surprendre ceux qui lui connaissent comme joueur parce que c'est vraiment comment il a vécu toute sa carrière. Extrêmement compétitif. Quand il se fait douter, au lieu d'aller se cacher, il veut faire ses preuves.
Vous écoutez Cogeco Nouvelles.
T'as envie de vivre l'envers du décor de la Coupe Memorial 2025 à Rimouski? Deviens bénévole. Nous recherchons des personnes dynamiques pour occuper les fonctions logistiques, services à la clientèle, transport et sécurité. Une chance unique de vibrer au rythme du plus important tournoi de hockey junior au Canada du 22 mai au 1er juin. Pour t'inscrire, visite le site lch.ca et clique sur le bouton bénévole de la section Coupe Memorial 2025.
FM 93, une radio de champions dans une ville de champions. Michel Turcotte, alias Capitaine Champion. Une radio de champions dans une ville de champions. FM 93.
Débat. Autre vue. Jusqu'à 15h, vous écoutez La Commission. La Commission. Voici Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
14h05, bienvenue à la commission, bienvenue à nos amis du 104.7 du côté de l'Outaouais. Luc, on rappelle à nos auditeurs que c'est toujours possible de savoir, si vous téléchargez l'application de Cogeco Média, là, toutes les émissions de tous les réseaux sont disponibles. Et via la messagerie texte, vous pouvez bien sûr nous écrire comme vous le faites très bien, 98-98-5, mais dans l'application Cogeco Média, il y a un clic sur la bulle, puis votre message arrive directement en studio. Alors, vous avez plusieurs options pour nous joindre. C'est ça, la bonne nouvelle. Il y a encore, bien sûr, l'adresse courriel de la commission @98.5fm.ca. Avant de vous présenter notre prochain sujet, notre prochain invité, c'est comme on dirait ma mère, ça, c'en est une capable. En parlant de nouvelles qui nous font dresser les cheveux, l'administration Trump veut donner 1 000 $ aux sans-abri qui s'auto-expulsent. Et celle qui fait la promotion de cette nouvelle mesure, c'est la très édifiante Kristi Noem, la secrétaire américaine à la sécurité intérieure. Vous savez, celle qui s'est fait voler son sac à main dans un restaurant de burger, sac à main dans lequel logeait son passeport, 3 000 $ en liquide. Alors, c'est Radio-Canada qui vient de nous confirmer cette nouvelle. 1 000 $ pour les sans-abri. Tu veux t'auto-expulser, tu veux quitter le territoire américain, tu es dans la rue, on te donne 1 000 $.
Mais moi, j'aurais de poser la question.
C'est réglé.
Combien de fois par semaine?
Combien de fois par semaine?
Que vous allez m'expulser. Parce que je peux m'auto-expulser. Parce que à 1 000 $, c'est pas même bien payant.
Non, c'est pas même bien payant.
Mais comme si je m'auto-expulse à chaque semaine, ça commence à être bon.
Oui, mais les populistes, ils ont ce genre de mesures très simplistes.
Oui,
tu sais, on règle des problèmes complexes avec de l'argent.
1 000 $.
1 000 $, le principe de l'auto-expulsion.
Mais en même temps, j'ai une autre question. Oui. Ils vont s'auto-expulser où?
Oui, c'est une bonne question. Au Canada.
Tu sais, comme se rendre, par exemple, de Haïti aux États-Unis, ça leur a coûté 14 000 $, en billet d'avion, en passeur, en ci, en ça. Mais là, on leur donne 1 000 $ pour qu'ils retournent à Haïti. Fait que là, ils vont revenir. Ça va leur coûter un autre 14 000. Écoute,
C'est n'importe quoi. Bonne nouvelle. On change complètement de sujet. On vous parle de notre sujet de 14h05. Bonne nouvelle en vue dans le monde de la consigne. L'organisme chargé de la consigne a trouvé les sommes nécessaires pour relancer la construction de nouveaux lieux de dépôt. Avez-vous adopté la consigne? Vous faites-vous rembourser vos contenants consignés? Est-ce que tu as adopté la consigne, Luc Fierrand?
Ben, moi, je n'achète pas de bouteilles ou de canettes.
Ah non?
J'ai aucune bouteille chez nous.
Ah bon?
Mais j'ai rencontré récemment un gars qui a soif.
OK.
Il a soif, c'est un vrai temps.
Oui.
Là, il a fait un cadeau à Henri. Il avait mis 200 canettes de bière dans un sac, qui a accumulé un peu de temps, d'ailleurs. Et là, on est allé à la consigne, tous les trois.
Ah,
consigne action.
La consigne.
Ben oui, on est allé. D'ailleurs, il y en avait qui restaient de la bière dedans, fait que c'était pas si évident que ça. Mais en tout cas, on les a toutes passées. Et puis, j'ai fait l'expérience. Et une chose qui m'a surpris. J'ai trouvé la machine plus lente que prévu parce que 200 bouteilles, c'était un peu long.
Ouais.
Mais, j'ai trouvé qu'il y a plus de monde que prévu, par contre.
Ah oui, mais
il y avait du monde.
Je crois que ça connaît un très grand succès. On va en jaser avec notre invité, qui est vice-président de Consigne Action, Jean-François Lefort. Bienvenue à l'émission.
Bonjour.
Ben, tout d'abord, sur la popularité de la consigne, je demandais à Luc s'il a adopté la consigne. Nous, à la maison, on l'a adoptée. Est-ce que les Québécois répondent positivement à cette consigne?
Oui, depuis le 1er mars, quand la phase 2 a été lancée pour tout ce qui est bouteilles de plastique, notamment, donc un ajout de 1,2 milliard de contenants au système, on a vu vraiment une augmentation dans la participation dans nos lieux de retour depuis les lieux de retour Consigne Action Plus. Depuis avril 2024, on a franchi le 100 millions de contenants retournés.
Donc ça correspond, c'est bon, ça correspond à vos objectifs?
Oui, ça correspond à nos objectifs. On est très enthousiastes. C'est sûr que nous, on est toujours en mission pour le 90% de contenants retournés qui sont mis en marché. Un objectif de 2032. On est sur la bonne route présentement.
Ben oui, j'ai remarqué ça, moi, qu'il y avait pas mal de monde. Là, c'était intéressant, c'était motivant. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait une attente pour chacun des postes où j'étais. C'était un dimanche. Par contre, c'était un peu lent, votre affaire. rentrer les canettes.
Tout n'était pas dans un Consigne Action
ouais,
Plus.
Oui, Consigne Action Plus. J'avais l'impression d'être à Caisse Populaire. C'est tout beau, tout propre.
Oui, bien oui.
D'ailleurs, j'ai demandé un linge pour laver après parce qu'il y avait de la bière, puis ça était collant. Puis il y a deux membres du personnel qui sont là.
Il y a du membre du personnel qui sont là.
Deux membres de personnel qui étaient sur place. Est-ce que c'est comme ça dans toutes les succursales?
Ça dépend du moment, parce que c'est sûr que dans les moments les plus achalandés, on essaie d'avoir le personnel pour répondre justement au volume. Par contre, C'est vrai, on a une transformation du réseau. Avant, ce qu'on faisait, c'était uniquement le retour dans les machines, dans les gobeuses, comme on dit, ou le retour en sac au comptoir de courtoisie. Donc, pour les citoyens avec l'application mobile, on est rendu à plus de 50 000 utilisateurs de notre application, ce qui permet de retourner les sacs, d'utiliser le retour express. Il réduit le temps d'attente et les consignes Action Plus avec les retours en vrac où les machines peuvent faire le décompte de 200-250 contenants la minute. Donc, c'est des nouveaux services qui n'existaient pas avant, justement pour répondre à l'augmentation de la participation des citoyens au Québec.
Qu'est-ce que vous voulez dire par le service? C'est-à-dire que j'arrive avec un sac, je le donne au préposé, puis lui, il le traite à ma place, c'est ça?
En fait, le retour express, c'est on enregistre notre sac, donc ça prend, c'est le seul service où est-ce qu'on doit absolument avoir l'application mobile.
Okay.
On s'enregistre sur la borne, on imprime une étiquette,
ouais.
On le colle sur notre sac, on dépose notre sac et c'est Consigne Action qui fait le décompte et nous rembourse sur l'application.
Quand même, hein? C'est bien.
Ouais.
Ceci étant dit, on comprend pas où vous avez trouvé l'argent. Parce que est-ce que c'est payant? Parce que pour qu'un investisseur investisse, ça veut dire que c'est payant pour lui, là.
En fait, pour le système de consigne, c'est un REP. Donc, c'est l'ensemble des producteurs qui ont l'obligation de se préoccuper de la matière qu'ils mettent en marché. Et avec le modèle d'affaires, évidemment, on a été en mesure de sécuriser un autre partenariat avec partenaire financier.
C'est dur à comprendre pour quelqu'un qui n'est pas directement derrière votre ordinateur, là. On va essayer à deux, à trois. Là.
On va commencer par dire là, que le gouvernement, d'ici 2027, vous a confié le mandat de créer là, 400 lieux de retour de consignes actions et de consignes actions plus. Ça, c'est toujours maintenu.
Ouais.
Bon. Oui.
Pour ça vous prend de l'argent. Là, vous en avez eu, mais il y en a manqué. Là, vous avez dû, pour atteindre cet objectif, aller à la recherche de bailleurs de fonds.
Oui.
Bon.
Oui.
Bon, la question, c'est qui sont les bailleurs de fonds, là où les bailleurs de fonds, vous avez trouvé?
Donc, on n'est pas en mesure de partager. Il va y avoir une annonce dans les prochains jours.
OK.
C'est le privé ou c'est le public? C'est le privé ou c'est le public?
Privé. C'est pas public.
Ouais, OK, mais on comprend le bout où l'ensemble des producteurs de bouteilles doivent s'impliquer dans la récupération de ces bouteilles-là. Donc, ils doivent payer une contribution. D'ailleurs, elle est de combien, je sais pas, là, mais il faut qu'ils paient une contribution pour produire un déchet. Pas un déchet, mais un objet recyclable. Bon, ça, on comprend. Mais pourquoi un bailleur de fonds viendrait rajouter de l'argent par-dessus ça? Lui, fais-tu de l'argent là-dedans?
C'est comme toute structure, il y a des intérêts pour qui sont chargés. Mais dans le cas de... Dans notre cas, c'est une obligation des producteurs. Et oui, il y a des contributions financières qui sont sur notre site web. Où est-ce que c'est rajouté au produit qui est mis en marché, qui est payé par les citoyens.
Okay.
Donc, il y a une façon de pour moderniser, pour transformer le réseau, pour arriver aux objectifs qui sont écrits, établis dans le règlement, pardon, ça va nécessiter à peu près 200 millions de dollars investis.
Là, vous en avez trouvé 50.
Oui, effectivement. Donc, pour alléger le fardeau aux citoyens, on a pris une entente avec des bailleurs de fonds, ce qui fait en sorte que, comme quand on achète une maison, on étale les paiements sur plusieurs années, et c'est ce qu'on a fait à la QRCB.
OK.
OK, fait que c'est sans doute une institution financière. Bon, moi, je fais ce pari-là.
OK. Bon, oui, il y a le BMO qui était la BMO qui était impliquée. Là. Je ne sais pas si ça va continuer de l'être, mais la question est posée.
Dans le cas où on a besoin de 200 millions, c'est sûr que nous, c'est que le premier tour, on va définitivement avoir besoin de la participation de d'autres institutions financières.
Okay.
Mais on est très content de relancer la construction. On avait très hâte de pouvoir faire ça.
Est-ce que le coût d'opération puis les loyers, les deux ensemble, font que c'est une opération rentable ou pas?
Nous, on est un OBNL, et maintenir un équilibre financier, donc de réduire l'impact le plus possible. Puis jusqu'à présent, on est dans les cibles qu'on avait projetées, ce qui était de vraiment garder les coûts les plus bas possibles.
OK, je me reprends là. Est-ce qu'il y aurait des coûts récurrents et de maintenance tel qu'à un moment donné, le modèle pourrait s'essouffler ou au contraire, il y a des gains d'efficacité qui font que le modèle va marcher de mieux en mieux?
Je vais juste revenir à vos commentaires au tout début quand vous dites la participation citoyenne est là.
Oui.
Ça, c'est très important.